À l'émission Marcher en creusant, nous vous proposons une émission de la série ayant comme titre « Trouver un souffle nouveau pour traverser le mi-temps de la vie », animée par le père Bernard Rugeux, missionnaire d'Afrique, anthropologue, théologien et auteur.
Chères amies auditrices, chers amis auditeurs, bonjour. Nous voilà donc embarqués dans cette grande aventure de la réflexion à propos des enjeux du mi-temps de la vie. Nous avons déjà donné une introduction un peu générale à la démarche, éclairé cette démarche d'un point de vue chrétien, d'un point de vue spirituel, de l'ordre de l'intériorité. Et puis maintenant, nous allons creuser de façon plus approfondie en quoi cela consiste de traverser les étapes du milieu de la vie et parfois de la crise quand effectivement c'est une crise. Je parle plutôt de transition du milieu de la vie tout en sachant que, au mi-temps de la vie, il y a aussi des moments de fragilité ou des événements qui nous fragilisent et qui donc nous obligent à nous poser un certain nombre de questions. En fait, c'est le moment où on est arrivé à un âge, nous le disions, entre 40, 60 ans, certains disent 35, 55, voilà. Mais on se demande en fait, quel est le sens de ce que nous vivons? La question de fond est une question de sens. C'est pas simplement, est-ce que je suis satisfait de mon rythme, ou de mon salaire, ou de ma relation avec mon conjoint? Mais ça va plus profondément quand on touche à la transition du milieu de la vie, c'est quel est le sens de tout cela? Quel est le sens de ce que je suis en train de vivre? L'évolution de mon corps où je sens que je commence à diminuer, peut-être en énergie, en force, et dans le cas des femmes, des transformations importantes sur le plan hormonal, l'évolution de nos relations, et particulièrement de la relation au conjoint, des relations aux enfants, peut-être en crise d'adolescence, aux parents qui vieillissent, l'évolution professionnelle, peut-être aussi un certain chemin spirituel ou religieux, et particulièrement pour les personnes qui sont dans une vie consacrée. Et dans tout cela, nous sommes confrontés à ce que Jung appelle le processus d'individuation. Alors ce mot qui peut paraître un peu barbare, où nous trouvons d'un côté l'idée de processus, c'est-à-dire un chemin à parcourir, et d'individuation, c'est-à-dire devenir un individu, devenir une personne, et que personnellement je définirais de la façon suivante, c'est le chemin que chacun, chacune, doit parcourir durant sa vie pour réaliser la personne unique qu'il, elle, est appelée à devenir. Et c'est un long processus qui, en fait, commence au début de notre vie et traverse toute cette vie pour essayer d'acquérir pleinement notre personnalité authentique. Jung parle du « soi » avec un « S » majuscule lorsqu'il veut définir cet être authentique que nous sommes et qui est déjà là présent et qui cherche à se déployer depuis notre naissance. D'un point de vue chrétien, nous parlerions de notre vocation profonde, l'appel venant de Dieu, l'être unique que nous sommes, parce que ce qui est important, c'est de bien voir que nous sommes ici confrontés au chemin unique d'une personne qui ne peut pas être comparée à d'autres, parce que chaque itinéraire est unique, chacun de nous est unique, et même si nous pouvons nous faire aider par d'autres, il ne faudrait pas nous prendre pour d'autres. Et les comparaisons dans ce domaine-là sont toujours piégeantes, parce que ou bien on se survalorise, ou bien on se dévalorise, mais en fait, on n'est pas sur un chemin de vérité, d'authenticité personnelle. Donc, un processus d'individuation, un chemin que je parcours pour essayer de devenir de plus en plus moi-même, et qui, au moment de la transition du milieu de la vie, prend beaucoup d'importance, parce que c'est l'occasion de découvrir que La première moitié de ma vie a été vécue plutôt en extériorité, devant prouver des choses, alors que la deuxième moitié m'invite à un chemin de plus grande intériorité. Et ce que dit Jung également, c'est que l'ombre et la lumière émergent en parallèle à ce moment-là, la transition du milieu de la vie. L'ombre dans le sens que il y a des choses dont je me rends compte qu'elles ne me comblent pas et qu'il faut que je remette en question et qui me pèsent. Mais d'un autre côté, si je reste ouvert, ouvert à la fois à ce qui dans mon passé n'a pas abouti complètement, ce qui est resté en veilleuse, en attente, et puis tous les possibles que j'ai encore devant moi pour les années qui viennent, dans la mesure où je suis prêt à m'ouvrir à un changement et à de nouveaux défis. Donc d'un côté des insatisfactions et des déceptions, des mises en question qui nous obligent à regarder en face des frustrations, la réalité que l'on vit aujourd'hui, et d'un autre côté de nouvelles dimensions, de nouvelles aspirations de notre personnalité que nous voudrions approfondir et peut-être déployer. Donc il s'agit en fait, si on doit parler d'une crise, ce serait une crise qui apparaît au milieu de la vie, qui n'est pas automatiquement attachée à tel ou tel âge. Il n'y a pas un compte à rebours où on nous dit « voilà, vous avez tel âge, donc préparez-vous, vous vous approchez de la quarantaine ou de 45 ans, donc fatalement vous allez rentrer dans des turbulences ». Non, parce que pour certains, c'est une évolution dans les profondeurs, tandis que pour d'autres, effectivement, c'est une révolution. Et ils sont obligés de, ou elles sont obligées de remettre en question beaucoup de choses. Donc nous allons un petit peu voir en quoi cela consiste, cette transition qui touche donc notre processus de croissance et qui concerne toutes les étapes et toutes les dimensions de notre vie. La dimension physique, psychologique, relationnelle, spirituelle aussi, qui en fait sont des dimensions qui sont touchées à chaque étape de notre vie. Puisque, comme je l'ai déjà dit, il y a le choc de la naissance, puis il y a l'enfance, il y a souvent une crise à l'adolescence, puis on grandit comme jeune adulte, puis on arrive à ce moment du milieu de la vie, puis plus tard ce sera rentré déjà dans une période de préparation au troisième âge, et puis en fait on devient de plus en plus âgé et on se prépare au grand passage final. Et à chaque nouvelle étape, il nous faut nous adapter. En fait, le problème n'est pas d'être en transition, puisque c'est quelque chose de normal. Nous sommes des êtres en croissance. Il suffit de regarder la nature, il suffit de voir grandir un arbre. Il a aussi des transitions à passer pour se déployer dans ce qu'il est. Donc il y a un mouvement de la vie qui nous traverse et qui est un mouvement naturel. Le problème n'est pas tellement ce mouvement intérieur du processus d'individuation et de cette énergie qu'il y a en nous qui veut se déployer, que les résistances à ce processus qui se déploie parce que cela met en question nos habitudes. Et alors, c'est là que apparaissent les difficultés. Mais prenons un exemple de ce que peut ressentir une personne qui entre justement dans ce mouvement. Et je reprends ici un exemple donné par Christophe Fauré. Un après-midi de printemps, Isabelle a des larmes dans les yeux. Elle vient voir donc son thérapeute et elle lui dit « J'ai presque honte de vous raconter ça. Je suis mariée avec un homme que j'aime et qui m'aime. Nous avons 3 grands-enfants qui commencent à se débrouiller dans la vie. » J'ai un travail intéressant dans un grand groupe de presse. Nous avons une jolie maison. Vu de l'extérieur, ma vie paraît plutôt réussie. J'ai tout ce qu'il faut pour être heureuse. Et pourtant, depuis 2 ans, je me bats tous les jours contre un terrible sentiment de vide intérieur. Je ne me sens pas déprimé, mais j'ai l'impression d'être dans une lente chute libre, comme si ma vie perdait son sens jour après jour. Je n'ose pas en parler à mes proches parce que j'aurais l'impression de me plaindre comme une enfant gâtée. Pourtant, je me sens complètement perdu. Isabelle est une jolie femme, dynamique, entreprenante, mais derrière ce visage serein se cache une personne qui se sent au bord du gouffre. Et elle dit porter en elle une calme désespérance, en opposition avec la relative paix que la vie lui a accordée jusqu'à maintenant. Sa tristesse montre qu'elle est en train de vivre un processus intérieur qui se met en place et qui est précisément cette transmission du milieu de la vie. Elle est entrée dans une réalité psychique qui la fragilise sur ses bases. Sa tristesse et son malheur résultent du constat déstabilisant qu'elle n'est plus en phase avec son existence. L'identité qu'elle s'était soigneusement construite dans la première moitié de sa vie et qui lui avait permis de réussir et d'atteindre la place qu'elle occupe maintenant ne correspond en fait plus à la personne qu'elle est en train de devenir en profondeur. Et elle a l'impression qu'une partie de ce qu'elle a été est en délitement. Mais elle ne sait pas vers où elle va. Elle voit ce qui est en train de se perdre, mais elle ne voit pas ce qui s'offre. Et elle s'inquiète d'aller où elle va, parce que ça lui échappe. Elle est en mutation, mais elle ne sait pas vers quoi. Et du coup, elle est profondément insécurisée et connaît un trouble intérieur. Et effectivement, c'est ce que beaucoup de gens peuvent vivre au moment où ils sont confrontés à cette transition du milieu de la vie ou, d'une certaine façon, sans crier gare, alors que tout semblait baigné, comme on dit, rouler normalement, eh bien, il y a comme une incomplétude à laquelle j'ai déjà fait allusion dans les émissions précédentes. Et ça touche plusieurs secteurs de la vie. Et c'est là qu'il est important, à ce moment-là, de se poser des questions concernant là où on en est, parce que c'est l'occasion de faire le bilan. Le bilan de ce qu'on est en train de vivre, puisque pour le moment, les repères habituels s'estompent. Et ça va donc toucher tous les grands secteurs de la vie. J'y ai fait allusion, que ce soit l'évolution de notre corps, de notre vie émotionnelle, des transformations physiques, biologiques, hormonales. Si on vit en couple, c'est la relation qui peut-être se met à ronronner, où on manque d'harmonie, ou peut-être on est tenté d'aller voir ailleurs. Si on vit en communauté, c'est peut-être le fait de ne plus être capable de supporter sa vie consacrée, sa vie de communauté, ce qui semblait être évident dans le temps au niveau des relations ou des célébrations religieuses, etc., eh bien, devient pesant. Par rapport aux enfants aussi, ils sont peut-être en pleine crise d'adolescence, et nous n'arrivons pas à faire face, ou bien au contraire, ils sont en train de quitter la maison et on se demande qu'est-ce qu'on va faire si cette maison commence à se vider. Il peut aussi y avoir des attentes particulières vis-à-vis des parents qui deviennent âgés, mais qui peut-être aussi, d'un autre côté, vivent des attentes fortes vis-à-vis de nous parce qu'ils sont en train de vieillir et ils deviennent dépendants. Et donc, ceux qui étaient un recours au moment difficile, ajoutent à nos soucis leurs propres soucis. Ça peut être aussi sur le plan de la profession, où petit à petit, malgré peut-être des promotions, on n'y trouve plus son compte, parce qu'on est obligé d'être toujours dans l'extériorité de la réussite, des bons résultats, de correspondre à des critères, d'être à la hauteur, d'être dans la course, surtout si on commence tout doucement à approcher de l'âge fatidique de la retraite et on voudrait montrer qu'on est encore à la hauteur lorsque les jeunes sont en train de monter derrière nous. Est-ce qu'on ressent un besoin de changement? Mais on sait aussi qu'à partir d'un certain âge, un changement professionnel signifie presque immédiatement le chômage, tout simplement. Ou bien alors des moments où, dans des temps de silence, des temps de recul, des temps où on ose se regarder, réfléchir, creuser, de sentir qu'il y a vraiment un problème de sens. Je ne sais plus du tout pourquoi je fais ce que je fais. Et en tout cas, ce dont j'avais rêvé comme épanouissement et comme réalisation de moi à travers ma vie professionnelle, ma vie familiale, ma vie relationnelle, peut-être politique, sociale, etc., eh bien, je n'y trouve pas mon compte. Je ne me sens pas comblé, je ne me sens pas épanoui. Et je me pose des questions, est-ce que je me serais trompé ? Alors donc, il y a ce processus d'individuation. Et ce processus d'individuation, donc, où je suis en train de poursuivre le chemin de réalisation de la personne profonde que je suis, m'envoie des signaux particuliers au moment où je suis au milieu de la vie. Il y a des messages qui me viennent, qui expriment justement ce besoin d'accomplissement et de plénitude alors que je suis au seuil du milieu de ma vie et que je me rends compte que je ne suis pas satisfait. Nous savons qu'au moment de l'adolescence, il y a déjà toute la construction d'une identité. Le jeune doit s'ajuster à la transformation de son corps, aux contraintes extérieures, aux attentes des parents, aux attentes scolaires. On lui demande ce qu'il veut devenir. Il est en plein bouleversement, à la fois encore enfant et pas encore adulte, mais rêvant de devenir adulte et ayant encore besoin du soutien de l'enfant. Voilà ce passage d'identité difficile de l'adolescent. Quand on arrive à 45, 60 ans, là aussi, on en arrive à devoir redéfinir son identité et d'essayer de voir qui est notre personne, quelle est notre personne authentique en dessous de ce personnage que nous avons dû nous construire. Et nous allons revenir sur les différentes étapes de ce passage. C'est cette transformation intérieure qui est l'enjeu de la transition du milieu de la vie. C'est pour cela que, d'un côté, ça peut être une période à risque, où on pourrait se lancer dans des décisions trop rapides et remettre trop vite en question ce que l'on a déjà bâti. Et c'est là que parfois il y a des divorces trop rapides, des abandons professionnels, des coupures qui, sur le long terme, se révèlent être des erreurs, des gestes de panique. Mais c'est aussi une extraordinaire occasion d'aller dans les profondeurs de notre être, de répondre à certaines questions du sens, de laisser remonter des envies profondes, des rêves que nous avons peut-être eus dans notre jeunesse et que nous avons sacrifiés pour devenir la personne que nous sommes devenus au milieu de notre vie. Ce processus d'individuation, ce chemin personnel, en fait, m'invite à regrouper ce qui est fragmenté dans une vie très active. Et je parlerai personnellement aussi d'un travail à la fois d'authenticité, de simplification et d'unification. Et j'emploie ces trois mots dans un sens tout à fait spirituel et je dirais aussi dans un sens chrétien pour les auditeurs qui nous écoutent et qui sont chrétiens. Parce que cette transition du milieu de la vie, c'est l'occasion aussi de faire le point sur notre vocation profonde, notre réponse à l'appel du Seigneur, sur la fécondité de notre vie, sur le plan spirituel également. Sachant que ce processus d'individuation qui nous appelle à nous épanouir dans la personne que nous sommes en vérité, pour un chrétien veut dire me confronter à l'appel profond du Seigneur et de voir en quoi j'ai été fidèle à mes alliances, à mon engagement de baptême, de confirmation, de couple, à mon chemin spirituel, à cette invitation à la prière, à m'unifier, à poser mon regard sur le Christ comme étant ma référence et mon modèle. Et c'est pourquoi nous pouvons faire une approche de la transition du milieu de la vie tout à fait non religieuse, mais quand même avec une dimension spirituelle, parce que comme on l'a déjà dit, comme on pose des questions de sens, il y a aussi une dimension spirituelle, même si on n'appartient à aucune religion. Mais d'un point de vue chrétien, c'est aussi une étape essentielle pour se remettre face à son appel, à son alliance, et se poser la question: quel est mon désir profond aujourd'hui? Quel est ce désir qui m'habite? quel était ce désir quand j'étais jeune, quand j'ai dit oui, quand j'ai accepté de m'engager dans le scoutisme, de me préparer peut-être à la confirmation, quand j'ai préparé mon mariage chrétien, quand j'ai dit oui à ma partenaire ou à mon partenaire. Quel était ce désir? Où était mon trésor? Quel est mon trésor aujourd'hui? Quel est mon être profond? Et peut-être que justement j'en suis à un stade où je ne suis pas capable de répondre, parce que mes repères ne sont plus là. Et donc ça ne veut pas dire que nous sommes face à une catastrophe, ça veut peut-être dire que nous sommes face à une chance unique de retourner en vérité, je dirais, à mes fondamentaux, à qui je suis vraiment, pour pouvoir approfondir ces dimensions de mon être et être plus pleinement ce que je suis, un être humain en croissance et aussi un enfant de Dieu. Avant de parcourir les 5 étapes de ce travail, de ce parcours de l'individuation, de ce processus, je voudrais attirer l'attention sur l'importance d'être en contact avec notre vie affective. Parce que, effectivement, ce n'est pas simplement un bouleversement intellectuel où je ne trouve pas de réponse à certaines questions que je me pose. Mais c'est aussi un moment où je passe par des bouleversements au niveau des émotions. Parce que si effectivement je ne trouve plus mes repères aujourd'hui, il est évident que je suis dans une période où la peur, peut-être même la panique, le bouleversement, l'incertitude me travaillent, me déstabilisent. Et il est très important d'être à l'écoute de ce mouvement de nos émotions, parce qu'elles nous parlent de nous. Et ce serait très dommage, surtout dans le cas des hommes, de nous dire « non, je ne fais pas de sentiments, ça c'est pour les femmes, ces émotions-là, ben, il faut s'y opposer, il faut les ignorer, il faut agir », plutôt que de considérer que je ferais peut-être bien de m'arrêter un petit peu pour voir pourquoi je sens une tristesse profonde, une anxiété, une mélancolie, une colère dans mes profondeurs. Je me lance dans le sport, dans d'autres activités, je remplis le temps, je remplis le vide, je remplis les questions. Et à la fin, je reste toujours dans une superficialité totale, alors que justement, le grand enjeu, c'est de regarder ce qui bouge en moi. Nous savons que dans la façon dont on évalue d'habitude les gens au début de leur carrière, on utilise des batteries de tests parmi lesquels il y a des tests de quotient intellectuel. Et ce que le QI va mesurer, c'est bien sûr avant tout notre capacité de raisonner, de conceptualiser, de décider, d'organiser mentalement un certain nombre de choses pour voir si nous sommes aptes à faire des études supérieures et à poursuivre une formation plutôt manuelle ou plutôt intellectuelle, etc. Ce que l'on ne considérait pas dans le temps et qu'on considère de plus en plus aujourd'hui, c'est qu'il y a aussi ce qu'on pourrait appeler, ce qu'on appelle d'ailleurs, ce que Daniel Goleman appelle, lui qui en a été un des grands auteurs, l'intelligence émotionnelle. Apprendre à interpréter les messages de nos émotions et de notre vie affective, parce que nous ne sommes pas seulement des êtres intellectuels, nous sommes aussi des êtres affectif et spirituel. Et ce qui est très important, c'est d'être conscient que ces 3 dimensions sont en interaction continuelle en nous. Nous ne pouvons pas cliver d'un côté l'intellectuel, d'un autre l'affectif, d'un autre le spirituel. Ces dimensions sont en nous, toutes les 3, et sont en interaction continuelle. Quand je suis mal, sur le plan intellectuel, je suis mal dans mon affectivité, je suis mal d'un point de vue spirituel et aussi d'un point de vue corporel. Alors être en contact avec ma vie affective, ma vie émotionnelle, ce qui bouge en moi, les grandes joies qui me disent « c'est bien, je suis bien là où je suis », ces grandes inquiétudes, cette anxiété, ces angoisses qui par définition n'ont pas d'objet clair, prendre conscience de cela et essayer de voir ce que cela me dit me permet justement de développer mon intelligence de la réalité. Parce que je peux articuler à la fois l'approche intellectuelle et l'approche émotionnelle et affective. Parce qu'il est important de savoir qu'une émotion forte, un sentiment qui m'habite, est toujours lié à des besoins plus ou moins satisfaits. Et tant que je n'ai pas réalisé que ces émotions m'envahissent ainsi parce que je ne réalise pas que certains besoins ne sont pas rencontrés, ne sont pas respectés, ne sont pas pris en charge, je ne peux pas retrouver mon équilibre. Et j'essaye de me battre contre les symptômes, c'est-à-dire telle émotion qui m'envahit, sans être capable de rejoindre la racine du symptôme, c'est-à-dire cette insuffisance, cette insatisfaction au niveau de besoins profonds. Cette importance de la vie affective pour un discernement au moment où on arrive à la transition du milieu de la vie est aussi confirmée par toute la tradition spirituelle et particulièrement la tradition ignatienne. Saint Ignace de Loyola, qui est un des grands maîtres du discernement spirituel dans l'Église et qui est très connu depuis des siècles, disait à une époque où on se méfiait plutôt de l'affectivité à cause des excès de certains groupes émotionnels, il disait que l'Esprit Saint nous parle à travers les mouvements de notre affectivité, ce qu'il appelait l'émotion de l'esprit, et que ces mouvements de mon affectivité me donnent des indices et des indications pour mon discernement, pour vérifier si je suis dans la justesse, ou si on veut employer une autre expression, si je suis bien dans la volonté de Dieu. Et qu'est-ce qui me permet de vérifier que je suis bien dans cette volonté de Dieu ? Eh bien, c'est cet état intérieur qui peut alterner entre des moments, ici j'utilise son vocabulaire de l'époque, de désolation et de consolation. La désolation, c'est quand je perds le goût à toute chose. Faire ce que je fais me coûte. J'ai du mal à aimer, j'ai du mal à croire, j'ai du mal à faire confiance, j'ai du mal à me tourner vers l'avenir dans la sérénité. Tandis que la consolation est au contraire ce sentiment de justesse, de complétude, ce sentiment d'être bien à la place, d'être en communion avec mon Dieu, d'être en relation avec les autres, d'avoir la juste attitude dans mes engagements, une liberté intérieure et en même temps un véritable engagement dans le oui que j'ai prononcé, l'alliance à laquelle je suis fidèle. Et ainsi donc, toute cette vie émotionnelle qui me dit tellement de choses lorsque je fais un travail d'intelligence émotionnelle, m'apparaît aussi, dans une perspective ignatienne, comme étant ces indices des mouvements de consolation et de désolation qui me disent si je suis bien à ma place, si j'ai bien l'attitude juste. Et s'il y a des sentiments de tristesse, de peur ou de colère qui se maintiennent en moi, quels que soient mes efforts pour les dépasser, et qui durent, c'est un signe qu'il faut que j'aille voir quel est le besoin qui est concerné, et peut-être quel est l'aspect de ma vie, la dimension de ma vie, que pour le moment je refuse au Seigneur, ce qui fait que je n'ai pas la paix du cœur, et qu'il me faut chercher la cause.
Vous venez d'entendre « Marcher en creusant » avec le père Bernard Hugeux, missionnaire d'Afrique, anthropologue, théologien et auteur.